comportements spécifiques qui ont été créés dans un certain nombre de médias, le poste de ce qu'on appelle gender editor, donc c'est des journalistes qui sont spécifiquement formés pour travailler sur les histoires de violences sexuelles. Il y a toute une méthodologie, toute une boîte à outils qui a été perfectionnée, en fait, qui a vraiment été pensée, théorisée pour la première fois au moment de l'affaire Harvey Weinstein, avec les grandes enquêtes sorties par le New York Times, le New Yorker. Et depuis ces affaires-là, il y a eu évidemment aussi en France, chez Mediapart, l'affaire Denis Baupin, qui était un des chefs des Verts et qui était le vice-président de l'Assemblée nationale. Et donc ces mêmes méthodes, en fait, de regroupement de témoignages des victimes, de recoupement, etc. Il y a toute une méthodologie pour éviter justement d'être décrédibilisé quand des affaires aussi tentaculaires que l'affaire Epstein émergent.
Oui, et le journalisme devient alors un outil qui vient aussi compléter, voire appuyer le travail judiciaire pour avancer dans ces enquêtes. Alors pour couvrir l'affaire DSK à l'époque, Marine Pradel, il aurait fallu faire quoi selon vous? Aller chercher d'autres victimes de DSK ou aller rencontrer ces femmes de chambre, s'intéresser à leur quotidien?
Alors voilà, il y a deux choses en parallèle. Effectivement, il y avait s'intéresser aux victimes de DSK. Je pense malheureusement qu'en 2011, on aurait beau chercher en France et en Belgique des victimes de DSK, son statut, sa puissance était telle que je doute qu'à l'époque, je doute que d'autres femmes auraient parlé, parce que son statut, son niveau de pouvoir, son niveau de puissance était tel que je pense que les femmes avaient trop peur de parler face à un homme comme ça. En revanche, on aurait pu chercher à New York, chez les femmes de chambre, et c'est pour ça que notre podcast s'intitule Shame on You, parce que le 6 juin, devant la cour criminelle de Manhattan, première audience où DSK est présentée à un juge, on tombe sur cette ribambelle de femmes de chambre en uniforme qui se sont déplacées pour venir devant la cour criminelle et qui crient en chœur « Shame on you », honte à vous. Et quand on va leur parler à l'époque, ce jour-là, avec ma collègue Anne-Cécile Genre, on leur pose quelques questions et elles nous le disent déjà. Elles nous disent « Mais moi aussi, ça m'est arrivé. Moi aussi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé plusieurs fois. » Et elles nous disent toutes « Ça n'est pas un cas isolé, c'est systémique. C'est quelque chose qui arrive tout le temps. » Et là-dessus, à ce moment-là, ça aurait dû déclencher quelque chose. On aurait dû se dire « Oh là là, mais est-ce qu'il y a un phénomène de société derrière ça? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus large qui dépasse la personne de Dominique Strauss-Kahn, qui dépasse la personne de Nafissatou Diallo? Une façon dont les rapports hommes-femmes et les rapports de pouvoir et de domination de genre existent dans notre société, qu'elle soit à New York ou qu'elle soit à Bruxelles ou qu'elle soit à Paris. » Et là-dessus, là, il y a eu un vrai manquement. On était aveuglés par les flashs des appareils photos, par la personne de Dominique Strauss-Kahn, par toutes les conséquences politiques, comme l'a dit votre correspondant à Paris à l'époque. Donc on n'a pas voulu voir ce que ce jour-là, le 6 juin 2011, ces femmes de chambre ont crié face à nos caméras. On n'a pas voulu les écouter et on aurait dû.
À la fin du podcast, vous consacrez un épisode à la voix de Nafissatou Diallo, parce qu'elle a écrit un livre, sa version des faits. Il est passé totalement inaperçu lors de sa sortie. Quel est le bilan de cette affaire pour elle aujourd'hui, puisque vous êtes resté en contact avec ses avocats?
Le bilan pour elle, il est toujours très négatif. Elle, quand on lui pose la question, elle le dit, elle aimerait revenir à sa vie d'avant le 14 mai 2011. Elle voudrait retourner vivre dans son appartement du Bronx avec sa fille, retrouver son emploi qu'elle aimait et qui lui garantissait un salaire confortable, fixe, syndiqué. Elle avait enfin réussi à atteindre la vie qu'elle avait rêvé dans son parcours d'immigration, et sa vie d'après a été une vie compliquée à vivre, relativement cachée, puisque tout le monde a pensé qu'elle avait touché le jackpot. Donc elle a eu beaucoup de pression, de demandes d'argent, elle a dû déménager à de multiples reprises. Le rapport humain avec les gens, quand on sort d'une affaire comme ça, avec cette dimension financière, je pense que le rapport qu'on entretient avec les gens est faussé par tout ce qui s'est passé. Elle considère encore aujourd'hui que son nom est salué, et puis dans la culture dont elle est originaire, il y a une forme de honte et de tâche indélébile que rien ne viendra à la. Donc pour elle, sa vie est gâchée et rien ne viendra changer ça.
Et quel est le bilan pour DSK? Il vit au Maroc, lui, c'est bien ça?
Oui, il vit au Maroc. Il continue à conseiller des chefs d'État, notamment en Afrique, dans leur relation avec le Fonds monétaire international. Donc il a une activité professionnelle qui a l'air de bien fonctionner. Et au-delà de ça, moi j'ai été frappée au moment du tremblement de terre au Maroc récemment, de le voir invité en plateau sur BFM TV, où il était face caméra avec un micro en parlant de l'aide humanitaire à apporter aux sinistrés du tremblement de terre au Maroc, et où un commentateur de télévision, journaliste très connu en France, lui donnait, en lui posant des questions, du Monsieur le Président, ce que je trouvais assez frappant. Et donc effectivement le décalage entre la vie de Nafissatou Diallo, qui 15 ans plus tard continue à vivre cachée, et Dominique Strauss-Kahn, qui était invité en plateau et à qui on donnait du Monsieur le Président, je trouvais que le décalage était assez, assez frappant.
Avec leur travail sur leurs enregistrements de l'époque, Marine Pradel et Anne-Cécile Genre font plus que s'interroger sur la façon dont on a traité et perçu l'affaire DSK en 2011. Elles dissèquent l'évolution de notre perception des affaires de violences sexistes et sexuelles, l'évolution aussi de la façon dont les médias les traitent. Ce ne sont plus des scandales ou des faits divers, mais des comportements systémiques favorisés par ce que l'on appelle la culture du viol. Et il ne faut pas oublier non plus le racisme qui a imprégné cette affaire, un élément de plus dans la perception de Nafissatou Diallo par l'opinion publique.